de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et l'autre info, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Les réfugiés australiens de Chine seront mis en quarantaine sur l'île Christmas. La Bibliothèque nationale fournit des millions de livres numériques avec e-Pusnas. Spécialiste pulmonaire a dit par rapport au SRAS et au MERS-CoV, le nouveau type de coronavirus n'est pas si mortel. Kimia Pharma exporte pour la première fois des matières premières cosmétiques vers la Corée du Sud. L'Indonésie et Singapour renforcent la coopération pour augmenter la compétitivité industrielle. Et enfin, la France a dit nous étudierons la proposition américaine de paix au Moyen-Orient. Voici le journal complet. Le premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi qu'il évacuerait et mettrait en quarantaine des citoyens australiens vulnérables et resterait pendant une courte période dans la province d'Hubei après la réunion du comité australien de sécurité nationale mercredi matin. Comme la cité Australian Broadcasting Corporation, ABC, le premier ministre Morrison a déclaré que son objectif principal était d'évacuer les mineurs et les personnes âgées afin qu'ils puissent être mis en quarantaine sur l'île Christmas jusqu'à ce qu'ils soient exempts de virus. À l'heure actuelle, 600 Australiens ont été enregistrés pour être évacués de la province d'Hubei et leur participation à cette opération est facultative. Le premier ministre a déclaré que les résidents qui sont évacués resteront 14 jours sur l'île Christmas.
We're particularly focused on the more vulnerable components of that population. That's young people, particularly infants, and those who are elderly.
Nous nous concentrons principalement sur les populations vulnérables, en particulier les enfants et les personnes âgées. Et ce sera notre priorité. Ils seront assistés en termes de départ et des dispositions seront prises selon les procédures normales. Nous désignerons l'île Christmas comme zone de quarantaine. Ils seront emmenés sur l'île Christmas où nous placerons une équipe d'assistance médicale australienne, AUSMAD, qui s'y rendra pour fournir une assistance médicale et sera ajoutée selon le besoin avec d'autres soutiens de défense. L'île de Christmas, une région australienne isolée située au sud de l'île de Java, Indonésie, est l'emplacement de l'un des trois centres de détention offshore de l'Australie qui fonctionne. Le centre a été fermé en 2018, mais a rouvert l'année dernière pour accueillir les familles de quatre réfugiés tamouls qui attendent le traitement de la demande d'asile de leur plus jeune fille. Le programme de travail de la Bibliothèque nationale est prêt à apporter de nombreux changements pour maximiser les avantages pour le peuple indonésien à travers une application de bibliothèque numérique e-Pusnas. La Bibliothèque nationale a fourni des millions de titres de livres sous forme numérique. Cela a été déclaré par le chef de la Bibliothèque nationale, Muhammad Sharif Bundo, après la réunion de travail national 2020 sur le thème « L'innovation et la créativité des bibliothécaires dans le renforcement de l'indice d'alphabétisation pour atteindre des ressources humaines supérieures vers une Indonésie avancée ». Tenu dans le bâtiment de la Bibliothèque nationale de Salemba, Jakarta.
Banyak sekali perubahan dari segi paradigma lama perpustakaan ke konsep yang baru. Yang pertama, perpustakaan tidak lagi merupakan deretan
buku de Sang Zumang dalam siang paradigma de la bibliothèque au nouveau concept. La première est que la bibliothèque n'est plus une rangée de livres sur une étagère qui est conservée par les bibliothécaires jusqu'à ce qu'elle pourrisse. Mais cela a changé pour gérer la collection, gérer les connaissances, transférer les connaissances. Par conséquent, ne me demandez pas à nouveau en tant que responsable de la bibliothèque combien de visiteurs vous avez, combien de livres sont lus. Demandez-moi quel accès numérique donnez-vous à tout moment et la capacité de la Bibliothèque nationale. Inch'Allah, cela peut être 20 000 par seconde et je peux en fournir 20 millions par jour et il y a 3 milliards de revues scientifiques à la Bibliothèque nationale qui sont prêtes pour un accès gratuit par n'importe qui et à tout le moment, tant que vous avez un téléphone portable. La seconde, vous pourriez vous demander qu'en est-il des derniers livres. Veuillez entrer l'application pour installer le nom IP IPUSNAS. Vous trouverez des millions de nouveaux titres lisibles, pas besoin d'être membre de la bibliothèque et c'est gratuit. Troisièmement, les historiens et les chercheurs peuvent découvrir l'histoire de l'Indonésie il y a des centaines d'années. Vous pouvez entrer qu'à Kastara où tous les manuscrits, scripts rares sont déjà là. Selon Sharif, la Bibliothèque nationale doit se concentrer sur ce qui est reçu par la communauté. Par conséquent, toutes les roupies dépensées par le budget de l'État actuel doivent créer des avantages ressentis directement par le peuple indonésien. La récente épidémie de coronavirus qui a commencé dans la ville de Wuhan, dans la province d'Hubei en Chine, en décembre dernier, s'est propagée à 14 pays. Le virus corona a été identifié pour la première fois dans les années 1960. Mais ce nouveau type, connu sous le nom de nouveau coronavirus, a commencé à apparaître chez l'homme l'année dernière lorsque les habitants de la ville de Wuhan ont commencé à souffrir d'infections respiratoires. Dr Erlina Burhan, médecin pulmonaire de l'hôpital de Persahabatan et la présidente de l'Association indonésienne des médecins pulmonaires de Jakarta, a déclaré à Voice of Indonesia mardi, bien que ce nouveau type de coronavirus ait fait plus de 100 décès, il n'est pas nécessairement plus mortel que les autres types.
Data shows that the fatality rate of SARS is more than 10% and also the fatality rate of MERS-CoV.
Les données ont montré que le taux de mortalité de SARS est supérieur à 10% est aussi le taux de mortalité du MERS-CoV ou syndrome de coronavirus du Moyen-Orient est plus élevé, plus de 30%. Et si nous regardons ces données actuelles, il y a plus de 4000 personnes affectées, mais celles qui sont finalement mortes étaient environ 100 personnes. Si nous comptons, le taux ne dépasse pas 5%, donc le taux de mortalité est plus bas. Dr. Erlina Burhan, qui enseigne également à la Faculté de médecine de l'Université d'Indonésie, a ajouté que ce nouveau type de coronavirus a une structure d'ADN différente, mais les symptômes sont les mêmes.
Well, the new type obviously having different structure of DNA, and but the symptoms.
Ce nouveau type a une structure d'ADN différente, mais les symptômes sont les mêmes. Il affecte les voies respiratoires supérieures et inférieures avec les mêmes symptômes, comme de la fièvre, des maux de tête, une mauvaise sensation. Et si le virus a affecté les poumons, vous commencez à tousser et à provoquer des difficultés respiratoires. Erlina Burhan a dit qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre sur ce nouveau virus. Les symptômes de ce nouveau type de virus corona comprennent les éternuements, les maux de gorge, le toux et le soufflement. Elle a suggéré de garder une distance avec quiconque présentant de tels symptômes. Le système immunitaire a encore important dans la lutte contre le virus et suggère de maintenir un système immunitaire sain. Il est également demandé de ne pas paniquer, de rester en bonne santé et de manger des aliments nutritifs pour soutenir le système immunitaire. PT Kimia Pharma Persero TBK exporte pour la première fois ses premières matières cosmétiques sous forme de poudre et de lotion vers la Corée du Sud. L'exportation initiale de cette matière première cosmétique vers la Corée du Sud générera 1,5 million de dollars américains. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de Kimia Pharma, Verdi Budidharmo, lors de la sortie de la première exportation à l'usine de Cikarang, Java Occidental, mercredi. Il a indiqué que le volume d'exportation initial atteint 31 tonnes, ce qui est la première étape en 2020. Il a déclaré que le développement de la production de matières premières cosmétiques a été initié par Kimia Pharma depuis l'an 2018. En 2019, Kimia Pharma transfère la technologie et optimise le processus de production de matières premières cosmétiques dans l'usine de matières premières médicinales à Cikarang. Dans le processus de transfert de technologie, a-t-il dit, Kimia Pharma a collaboré avec des partenaires de Corée du Sud, parce que ce pays est devenu un grand acteur à l'industrie cosmétique. Verdi Budidharmo a expliqué que le développement de l'industrie de matières premières a commencé en 2016 par la création d'installations de production de matières premières médicinales possédées par Kimia Pharma, puis sa commercialisation initiale le mercredi. Les gouvernements de l'Indonésie et de Singapour sont convenus de renforcer la coopération bilatérale dans les efforts visant à développer la compétitivité du secteur industriel à partir de l'augmentation des investissements à la mise en œuvre de programmes d'enseignement professionnel qui devraient encourager la croissance économique des deux pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, après avoir rencontré mardi le ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Chan Chun Sing, au ministère de l'Industrie, Jakarta. Agus Gumiwang Kartasasmita a révélé que les deux pays avaient coopéré pour encourager l'application de l'industrie 4.0. Cela a été indiqué dans la signature du protocole d'accord entre le ministère de la Recherche et du Développement de l'Industrie, du ministère de l'Industrie avec des entreprises de Singapour lors de la retraite du leader indo-singapourien à la session de la réunion annuelle du FMI à Bali en octobre 2018. En outre, le ministre de l'Industrie a déclaré que les deux pays ont établi une coopération pour améliorer le secteur des ressources humaines, en particulier en Indonésie, notamment par le biais de programmes de formation professionnelle. La France a déclaré qu'elle appréciait la dernière tentative du président américain Donald Trump de parvenir à un accord de paix entre Israël et la Palestine. Paris étudiera la proposition en profondeur. Le président américain Donald Trump a proposé mardi de former un État palestinien dans le cadre d'un plan de paix au Moyen-Orient, ce qui a suscité des critiques de la part des Palestiniens pour avoir imposé des conditions et des accords stricts pour mettre à Israël de maintenir le contrôle des colonies occupées en Cisjordanie. La France bien apprécie les efforts du président Trump et étudiera attentivement le programme de paix qu'il propose, a déclaré un communiqué du ministère français des Affaires étrangères, qui a également réaffirmé la décision de la France sur une solution à deux États pour Israël et la Palestine. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serge Ritter, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, garder la souveraineté en renforçant les équipements de défense. Les conditions géographiques qui s'étendent en tant que pays archipel asiatique et son emplacement stratégique au croisement des passages aériens et maritimes exige que l'Indonésie dispose d'une défense capable de maintenir sa souveraineté. Pour surmonter ce problème, le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, s'est rendu dans sept pays d'Asie et d'Europe pour renforcer les capacités de défense et de sécurité de la République unitaire d'Indonésie. Pour démontrer sa détermination à changer et à améliorer l'équipement de défense, le ministère de la Défense a organisé une exposition d'armes au bureau du ministère de la Défense Jakarta jeudi et a été suivi d'une réunion de coordination des dirigeants de TNI assistée par le président Joko Widodo. Cependant, la question se pose qui est la plus importante, construire ou acheter de l'équipement de défense aux parties étrangères. Le président Widodo, lors d'une réunion limitée au hangar de sous-marins de Surabaya, après avoir vu un sous-marin de fabrication indonésienne en collaboration avec la Corée du Sud, n'avait pas encore décidé d'acheter des armes à des parties étrangères. Cependant, il a ordonné de réformer l'écosystème de l'industrie de la défense de manière globale. Il souhaite également que le programme de développement d'équipement de défense puisse renforcer l'industrie de défense indonésienne. L'Indonésie doit réduire sa dépendance à l'égard des armes importées. Par ailleurs, le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, précédemment a déclaré devant le Parlement que l'Indonésie est un pays riche en ressources naturelles et a toujours été la cible de nombreuses autres nations. Pour cette raison, le renforcement et la modernisation des équipements de défense sont indispensables. Avec le budget existant, le ministère de la Défense mettra en œuvre quatre principes, à savoir les aspects appropriés, efficaces, économiques et géopolitiques et géocentriques. À l'heure actuelle, le renforcement de l'industrie de défense stratégique de l'Indonésie continue d'être développé et accru conformément à l'allocation de fonds d'environ 126 milliards de rupiah pour le budget de la défense et de sécurité. Il ne fait aucun doute que l'augmentation des capacités de défense, tant en termes d'armes que des ressources humaines, est l'une des choses importantes pour garder la souveraineté de la nation et de l'État. De plus, avec l'incident, en paix a revendiqué unilatéralement les limites de la zone économique exclusive de l'Indonésie. On a de plus en plus convaincu que l'Indonésie devrait avoir des armes sophistiquées pour sauvegarder l'intégrité territoriale. En outre, l'expérience de l'embargo des armes imposé par les pays producteurs a permis à l'Indonésie de devenir indépendante dans les industries stratégiques. La coopération en matière de transfert de technologie est la bonne étape pour devenir une nation indépendante dans l'industrie de la défense stratégique. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 30 janvier. On commence par le 30 janvier 1917, le héros national Igusti Ngurah Rai est né. Le colonel posthume de l'armée Igusti Ngurah Rai est né au village de Charangsari, Petang, régence de Badung, Bali, le 30 janvier 1917. Il était combattant de l'indépendance contre les envahisseurs néerlandais. Ngurah Rai a une armée appelée Ciung Wanara qui a fait sa dernière bataille connue sous le nom de Puputan Margarana. Là, Igusti Ngurah Rai est décédé le 20 novembre 1946. Sur le site de la bataille, on a ensuite établi le cimetière des héros de Margarana. Le gouvernement indonésien a décerné Bintang Mahaputra et a été promu général de brigade à titre posthume. On a ensuite inscrit son nom à l'aéroport de Bali, l'aéroport international Ngurah Rai. La suite, on a prêté serment d'Adolf Hitler en tant que chancelier d'Allemagne. Adolf Hitler était homme politique allemand et président du parti nazi. Il a été chancelier d'Allemagne de 1933 à 1945. En 1924, Hitler a gagné le soutien populaire en dénonçant le traité de Versailles et en soutenant le pan-germanisme, l'antisémitisme et l'anticommunisme. Après avoir été nommé chancelier le 30 janvier 1933, il transformait la République de Weimar en Troisième Reich, une dictature à parti unique fondée sur l'idéologie du national-socialisme. Mahatma Gandhi a été tué par un extrémiste hindou. Le 30 janvier 1948, le chef politique et spirituel du mouvement indépendantiste indien, Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi, est victime d'un meurtre. Gandhi a été abattu à New Delhi par un nationaliste hindou intransigeant. Gandhi était la figure la plus importante du mouvement d'indépendance indien. Il est un militant qui n'utilise pas la violence dans sa lutte. Il porte le mouvement indépendantiste à travers des manifestations pacifiques. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
One day I saw this girl. She's so damn pretty. Mataku memandang pada seorang gadis. Tak pernah kulihat dia di hari-hariku. Jantungku berdegup kencang saat aku mendekatinya. Say oh 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 oh, ingin ku sapa dia. Hey, dia cantik sekali. Yahoo, dia lucu sekali. Yahoo, ingin jumpa dengannya. Untuk yang berikutnya, dia akan jadi gadisku. Semua itu tak penting bagiku. Dia cantik sekali. Dia lucu sekali. Ingin jumpa dengannya. Untuk yang berikutnya, dia akan jadi gadisku.
Voilà la chanson intitulée Gadisco ou en français Ma fille, chantée par Ello. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Banjarmasin est prêt à construire un centre de recyclage de coopération entre l'Indonésie et l'Allemagne. Le gouvernement de la ville de Banjarmasin est prêt à construire un centre de recyclage des déchets de coopération entre l'Indonésie et l'Allemagne dans la région de la capitale provinciale qui a commencé en 2020. Cela a été communiqué par le maire de Banjarmasin, M. Ibnu Sina, après avoir tenu une réunion de suivi avec Econit en tant qu'organisation de coopération Indonésie-Allemagne à la mairie lundi après-midi. À cette occasion, Ibnu Sina a déclaré qu'il y avait un accord sur un endroit pour construire un centre de recyclage des déchets dans cette zone. L'endroit est en face de Benua Anyar, dans la région de Rivière Gampa, au nord de Banjarmasin. Selon Ibnu Sina, il y a 5000 m² de terrain appartient au gouvernement de la ville. Cependant, la construction d'un centre de recyclage des déchets ne nécessite que 2500 m² de terrain. Selon lui, la construction du centre de recyclage des déchets à Banjarmasin sera non seulement prise en charge par le gouvernement de la ville, mais il y aura l'aide de diverses parties. Pour cette année, Banjarmasin a reçu une incitation de 9 milliards de roupies, inférieure à l'année dernière d'environ 9,4 milliards de roupies. Ibnu Sina a déclaré qu'une partie des fonds pourrait être allouée au programme de construction du centre de recyclage de coopération entre l'Indonésie et l'Allemagne. Les études de faisabilité sont commencées, y compris de faire une conception technique détaillée. On estime que la construction de ce centre de recyclage de déchets nécessite des fonds d'environ 9,6 milliards de roupies. Ibnu Sina a révélé que l'utilisation des fonds de développement doit être allouée avec un système spécial. La construction de cette infrastructure de soutien est non seulement financée par le gouvernement de la ville, mais il existe également un gouvernement central. Dans ce cas, Econit est devenu son consultant. Selon Ibnu Sina, ce centre de recyclage aidera à la manutention et à la gestion des déchets correctement, car il est mis en œuvre avec une variété d'innovations. Si ce projet réussit, il sera refait dans d'autres quartiers. Ce centre de recyclage des déchets pourra gérer des déchets entre 30 et 40 tonnes par jour. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Coba melewatinya, lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Senyumanmu walau sedetik saja.
lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Erat ku kan bertahan, janjiku tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Gamaliel Audrey Cantika dont le titre est « Berlari tanpa kaki » qui signifie « courir sans pied ». Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, je présenterai la plage de Wané à Bima, dans l'ouest de Nusa Tenggara. Bima est l'un des régions de l'île de Sumbawa, Nusa Tenggara de l'ouest. Historiquement, cette ville était le chantre du sultanat de Bima dans le passé. Avec son riche patrimoine culturel, la ville de Bima propose un tourisme culturel avec la culture islamique. Il y a Asimbojo, le palais impérial, les tombes des rois et des saints, les jeux folkloriques, les arts et les cérémonies religieuses. En plus d'être riche en tourisme culturel, Bima possède également une attraction touristique naturelle. Son emplacement au bord de la baie, ce qui rend Bima a reçu une rangée de beaux tourismes marins, l'un d'entre eux est la plage de Wané. La plage de Wané se trouve dans le village de Tolotanga, dans le district de Monta. La distance est d'environ 6 km de l'aéroport Sultan Muhammad Salahuddin. Cette plage a du sable blanc qui s'étend largement avec des vagues et de l'eau de mer claire. Vous pourrez profiter de la fraîcheur de l'eau en nageant ou jouer sur la plage de sable blanc. Pour ceux d'entre vous qui veulent conduire de l'adrénaline, vous pouvez essayez de surfer sur cette plage. Il y a aussi l'attraction des Dupins qui saute sur les vagues d'eau. Pour le tourisme des dauphins, vous devez louer un bateau de pêche un jour avant de partir. Le meilleur moment pour regarder les attractions des dauphins est tôt le matin vers 9 heures. La distance pour voir les attractions du dauphin ne prend qu'une demi-heure en canoë. La plage douanée est équipée de grands parkings et de restaurants.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau. Memilih kau harus.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Gaït Sakenang, dont le titre est Maaf ou en français Pardon. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur la grande vente de Solo 2020. La grande vente de Solo a eu lieu à nouveau cette année. La grande vente de Solo est un événement annuel organisé par le gouvernement de la ville Surakarta et la chambre de commerce de Solo pour répondre à la basse saison ou ralentissement économique qui se produit chez les hommes d'affaires à Solo. La période de basse saison se produit généralement en février où le chiffre d'affaires est à un point bas. Par conséquent, le gouvernement de la ville Surakarta et la chambre de commerce Solo s'efforcent de créer un événement la grande vente de Solo pour répondre aux inquiétudes du monde des affaires à Solo. La grande vente de Solo devrait être en mesure de reconstruire l'activité commerciale à Solo ainsi que d'augmenter le nombre de touristes visitant la ville de Solo. La grande vente de Solo 2020 se tiendra du 1er au 29 février. Le secrétaire du comité de la grande vente de Solo 2020, David Erwijaya, a déclaré que la grande vente de Solo 2020 sera suivie par plus de 7000 hommes d'affaires de divers domaines d'activité, allant du transport, de l'hôtellerie, des petites moyennes entreprises au marché traditionnel. Selon David, l'objectif de la valeur de transaction de la grande vente de Solo cette année a atteint 700 milliards rupiah. La valeur de la transaction a augmenté par rapport à l'événement de l'année précédente de 600 milliards rupiah. La grande vente de Solo 2020 sera animée par divers événements dans la ville de Solo, notamment Grebek Sudiro, le Nouvel An chinois, le Kirab culturel et bien d'autres. Les touristes qui souhaitent faire des achats à la grande vente de Solo 2020 devraient télécharger l'application SoloSell sur un téléphone portable basé sur Android. En ayant l'application, les touristes peuvent saisir des transactions indépendamment, télécharger des factures d'achat et obtenir des points qui peuvent être échangés contre des prix. Il existe également une fonctionnalité d'information promotionnelle autour de la boutique où les touristes font leurs achats. En outre, le gouvernement de Solo offre des incitations aux hôtels et restaurants participant au programme La Grande Vente de Solo sous la forme d'une réduction d'impôt de 30%, ce dont intensif fait augmenter le taux d'occupation des hôtels. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku dan nafasku merindukanmu?
Voyez en Indonésie de l'Indonésie à tout le monde. Vous restez toujours avec nous sur l'onde courte de 3325 kHz. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Voici le magazine musical et cette édition, je vais vous présenter une chanson de Harvey Malaiholo. Le chanteur s'appelle Harvey Benjamin Malaiholo et est devenu populaire depuis 1980. Il a commencé sa carrière de chanteur en 1970. Avec une voix unique, Harvey a réussi à remporter divers festivals de musique. L'un d'eux était le prix du meilleur interprète au Asian Popular Song Festival. Depuis le début de sa carrière, Harvey a sorti de nombreux albums, en solo ou bien en duo. En 2007, il a publié un album intitulé Reflection of Harvey Malaiholo, Greatest Hits de 1987 à 2007. L'album contient ses chansons célèbres de 1987 à 2007. L'une des chansons de cet album est intitulée Dara. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée Dara, ou en français une fille, chantée par Harvey Malaiholo.
Dalam gerakanmu gemulai kau menari seiring nada syahdu, aku termangu-mangu. Dara, kau sungguh jelita, anggun dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh Dara, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum.
kau ke sana, ku cari kau ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli.
Setiap mimpiku Semakin melayang, lenyap hilang ditelan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menang. Tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, oh terasa nyeri. Bulan madu tinggallah tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.